retrouverez mes frères et mes sœurs. Et je vous assure que si nous retrouvons cet esprit, nous ne verrons pas de différence entre nous. Et ô combien aujourd'hui l'humanité a besoin d'hommes et de femmes, qu'ils soient chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans, qu'ils soient amoureux tout simplement de la grandeur de l'homme, épris de justice, et qui travaillent et œuvrent ensemble à apporter le meilleur d'eux-mêmes à l'humanité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Après le nom de Dieu, la prière et la paix sur le messager de Dieu ainsi que le sang des prophètes. Je cherche tout d'abord bien sûr refuge en Dieu contre les maux de nos âmes, contre Satan, le lapidé qui inspire et suggère les mauvaises actions à nos âmes. Et je loue Dieu pour sa grâce et pour les bienfaits qu'il fait descendre quotidiennement sur les hommes et sur les croyants en particulier. Mes chers frères et sœurs, quel plaisir de vous retrouver et de pouvoir aborder un sujet qui, j'espère, vous plaira. C'est le sujet de la lumière que nous allons aborder d'ici quelques instants, mais avant toute chose, j'ai un message à transmettre du plus profond de mon cœur à tous nos frères et nos sœurs de l'école de Jésus, fils de Marie, alayhi salam, nos frères et sœurs chrétiens. Comme vous le savez, nous sommes dans le souvenir et une période particulière qui est communément appelé Noël. Mais ce mot Noël nous a fait oublier à tous quelle était cette occasion bénie. Et c'est celle de la nativité. Donc c'est une date qu'ont retenu nos frères et sœurs chrétiens pour le souvenir de la naissance de Jésus, fils de Marie. Que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur Marie, alayha salam. Ce souvenir, il est là pour nous rappeler à tous quelque chose. Tout d'abord, que nous sommes des croyants et que nous croyons au Dieu unique. Et que ce messager, ce prophète, Jésus, est venu avec une direction. Et il est venu avec une annonce. Et puis tout ce qu'il a enseigné à travers son être et ce qu'il était, que la paix de Dieu soit sur lui. Alors, je présente à tous mes frères et mes sœurs mes vœux les plus sincères en cette occasion. Et je dis à mon âme et je rappelle à l'âme de mes frères et de mes sœurs que nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous devons nous rappeler qui était Jésus. Qui est Jésus aujourd'hui? Parce que nous pouvons en parler comme étant un personnage du passé. Mais aujourd'hui comme hier, il est présent. Et nous devons nous accrocher, vous devez, mes frères et mes sœurs, vous accrocher à ses enseignements, à l'amour qu'il a transmis et à tout ce qu'il a donné à cette humanité. On veut nous le faire oublier. On veut donner une dimension qui est purement terrestre et divertissante à cette histoire, alors que cette histoire est là pour nous rappeler la grandeur de l'homme. Cet homme que nous sommes et dont nous ne connaissons pas réellement la réalité et la dimension spirituelle. Ce sont les prophètes qui nous l'ont rappelé. Et c'est ce même Jésus, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui, qui nous le rappelle aujourd'hui. Alors, mes frères et mes sœurs, que ce jour souvenir de cette naissance ravive en vous votre foi et l'espoir qu'il y a en Dieu, qu'il ravive la bonté et l'amour qu'il y a en vous, afin que vous puissiez et que nous puissions tous ensemble le partager avec tout le monde. Et pour rappel, pour mon âme et pour la vôtre, mes frères et mes sœurs, la foi que nous avons est une foi universelle. C'est une foi que nous partageons. Alors certes, nous avons, vous avez, une manière de prier. Vous avez, nous avons des préceptes, des choses qui nous sont recommandées, des choses, etc., etc., qui sont inscrites par les traditions dans nos religions. Mais ceci n'est qu'une forme, ça n'est qu'une apparence. La chose la plus importante, c'est le cœur de notre foi. Et c'est ce que nous ont rappelé les prophètes en étant des témoins ici sur cette terre. Que nous ont-ils rappelé et que nous rappellent-ils aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, que l'homme ne se limite pas à ce corps de chair que nous avons, mais qu'il y a une réalité céleste, une réalité qui est en dehors du temps, comme nous avons l'habitude de le dire, et que c'est cette réalité-là que nous devons retrouver et être au service de cette réalité et de cet homme, afin que nous puissions retrouver la véritable place que nous avons dans cette création. Satan, le diable, Iblis, quel que soit son nom, sa mission et son rôle est de nous séduire et de nous détourner de cette réalité-là. Nous devons être patients, nous devons être endurants. Et nous devons nous devons nous encourager les uns et les autres. Quel beau message d'entendre de la part d'un chrétien qui s'adresse à un musulman et qui lui dit « Oh, toi, musulman, reste accroché à ta foi, reste accroché à ton prophète, reste accroché à ton Dieu, parce que c'est ce qui sauve. » Et d'entendre de la part d'un musulman qui s'adresse à un chrétien ou à un juif et qui lui dit « Oh, toi, chrétien, oh, toi, juif, reste accroché à ta foi, reste accroché à ton Dieu, reste accroché à ton prophète, parce que c'est la voie qui sauve. » Et cela est pour nous le cœur et le plus important. Le reste, ce ne sont que des choses qui ne font pas ce que nous sommes réellement, mais qui permettent de vivre une certaine foi dans ces traditions qui nous ont été transmises. Mais pas plus que ça. Le plus important, c'est l'esprit. D'ailleurs, il me semble que Jésus disait, alayhi salam, « Je ne suis pas venu pour la loi, mais je suis venu pour donner un esprit à la loi, ou pour redonner son esprit à la loi. » C'est cet esprit que nous devons retrouver, mes frères et mes sœurs. Et je vous assure que si nous retrouvons cet esprit, nous ne verrons pas de différence entre nous. Et ô combien aujourd'hui l'humanité a besoin d'hommes et de femmes, qu'ils soient chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans, qu'ils soient amoureux tout simplement de la grandeur de l'homme, épris de justice, et qui travaillent et œuvrent ensemble à apporter le meilleur d'eux-mêmes à l'humanité. Ô combien serait triste l'humanité si nous étions tous pareils, alors que Dieu a donné à chacun une particularité. Mais cette particularité ne fait pas de nous ce que nous sommes. Elle est là pour que nous retrouvions la grandeur et l'essence des choses, qu'elle nous ramène au point, qu'elle nous ramène à notre demeure, notre demeure qui est commune, notre demeure qui appartient au monde du tawhid et de l'unicité. C'est à ceci que nous sommes appelés. Alors mes frères et mes sœurs, à vous tous, mes meilleurs vœux en cette occasion, et que vous puissiez vivre cette période et ce souvenir avec l'espoir d'un renouveau et de retrouver, que nous retrouvions tous ensemble notre vraie nature et ce que nous sommes réellement. Ceci était mon message pour nos frères et nos sœurs. Et pour la suite, mes frères et mes sœurs, de cette analyse, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais revenir avec vous sur le sujet de la lumière. Alors, je vais tout d'abord vous citer un verset du Coran qui parle de la lumière, où Dieu se définit même, c'est un verset de la sourate La Lumière, le verset 35, il me semble, que je vais vous citer d'ici peu. Je le citerai en langue arabe et puis je le dirai en langue française aussi. Et pour éclairer ce sujet de la lumière, je vous rappellerai et je rappellerai à mon âme et je ferai un préambule sur la manière dont Dieu a fait cette création. Alors tout d'abord, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. Verset extraordinaire, mes frères et mes sœurs, qui a été médité par nombre de savants, de chercheurs et d'intéressés, de personnages qui sont intéressés par la spiritualité et les secrets, les joyaux que recèle le livre de Dieu, le Coran. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière, Dieu la compare, Mathal, il compare cette lumière. Il se définit comme étant la lumière et il compare cette lumière. Sa lumière est semblable ou est comme une niche où se trouve une lampe. Alors, c'est dit une lampe, ouais, c'est bien. Zujaja, la lampe est dans un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un aste de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni. Un olivier ni oriental, ni occidental, ni d'Orient, ni d'Occident. Alors ça c'est interpellant, hein, nous reviendrons là-dessus. Dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des exemples, des paraboles, des symbolismes. Et Dieu connaît toutes choses. Lumière. Dieu se définit comme étant la lumière. Dieu était un trésor caché selon le hadith, le récit connu des chercheurs. Et il a voulu, il a aimé être connu. Alors il a créé afin d'être connu. Ce trésor, ce Dieu que nous adorons, se définit comme étant la lumière. Et ce Dieu que nous adorons a créé. Qu'a-t-il créé? Il a créé les anges. Il a créé Iblis et les djinns. Et il a créé les hommes. Alors, bien sûr, je parle de ces trois entités parce qu'elles sont importantes. Je ne parle pas de tout ce qu'il y a dans la création que nous connaissons aujourd'hui sur Terre. Ceci fait partie de l'homme et de la création de l'homme. Et qui sont au service, bien sûr, de l'homme. Et nous avons défini par le passé dans d'anciennes analyses, mais il est important de revenir à cette chose-là. Mes frères et mes sœurs, toute cette histoire est une histoire d'intelligence. Et l'intelligence, elle se manifeste par la lumière. Dieu a donné aux anges et il a donné à Iblis et il a donné aux hommes chacun une particularité avec laquelle ils doivent être les serviteurs de Dieu dans le sens où ils doivent vivre en harmonie avec l'amour et la connaissance de Dieu. C'est la connaissance est le but ultime. Al-Ma'rifa, hein, que l'on nomme en arabe. C'est le but ultime. Ce n'est pas l'adoration, les prières, etc., comme nous avons pour habitude de le dire, qui est le but ultime. La vraie adoration, c'est le Ma'rifa, c'est la connaissance de Dieu. C'est cette connaissance que chacun a la responsabilité de chercher, quel que soit notre rôle dans la société dans laquelle nous sommes. Nous avons un devoir de connaissance et de rechercher la connaissance. Et vous allez voir pourquoi c'est important, parce que Dieu a donné une particularité à l'homme qui est supérieure à celle des anges et d'Iblis. Les anges sont des adorateurs, lumière, ils prennent directement leur lumière de cette intelligence, et ils sont les serviteurs de Dieu, et ils ne sortent pas de cette lumière, et ils ne sortent pas de l'ordre de Dieu. C'est-à-dire qu'un ange ne sort pas de l'obéissance de Dieu. Il est un serviteur. C'est pour ça que lorsque Dieu a demandé, il crée Adam, et qu'il demande aux anges de se prosterner, bien sûr, Iblis faisait partie d'eux, je reviendrai là-dessus, les anges s'exécutent parce que ça ne vient même pas à l'idée, si je peux le dire ainsi, c'est une image, à l'ange de ne pas se prosterner. Parce qu'ils sont des purs adorateurs obéissant à Dieu et que la particularité, leur nourriture lumineuse qu'ils tirent de cette intelligence ne permet pas un choix de désobéissance. J'espère que c'est clair pour vous. Iblis, c'est une dimension différente. Iblis, lui, la manière dont il apprend, donc il tire son intelligence de celle des anges, et il a dû gravir, Iblis, les différents degrés des efforts qu'il a fait pour atteindre le plus haut niveau des anges est que l'on appelle Taus al-Malaika. Mais Iblis, la méthode avec laquelle il adore Dieu et il va à la connaissance de Dieu, elle est devenue pour lui un piège. Et il est tombé dans ce piège. Quel est ce piège? Ce piège est qu'il, dans sa démarche, parce que sa logique le poussait à le comprendre de cette manière-là, dans son esprit, à Iblis, si je peux le dire ainsi, il a atteint ce degré parce qu'il a fait des efforts pour arriver à ce degré-là. Et c'est pour cette raison que lorsque Dieu lui demande « Mais qu'est-ce que tu as, Iblis, à ne pas te prosterner ?» Que répond-il? Il dit « Ana, ana, khayrun minhu. je suis meilleur que lui. Puis etc. Tu m'as créé de feu, etc. Mais il a dit, je suis. Il sait regarder. La science dont il était doué, Iblis, lui a fait se regarder. Alors que cette science-là ne devait pas l'amener à se regarder, mais à être le serviteur de Dieu sans réfléchir. Mais lui, il a eu et il a fait, il a effectué ce choix qui l'a fait tomber dans ce piège. Alors, comme nous l'avions vu auparavant, je le répète aussi, parce que vous allez voir, c'est important pour le sujet de la lumière. Il est Iblis, il s'est donné comme mission, puisqu'il a dit à Dieu, il lui a dit, accorde-moi un temps, je les détournerai tous, sauf tes serviteurs, les meilleurs, que l'on nomme en arabe, on a déjà parlé de ceci, al-mukhlasin. Hein, c'est ceux qui ne font aucune idolâtrie dans leur adoration, qui ont atteint le statut le plus pur de la foi. Ils ne sont pas détournables. Iblis se sert de l'idolâtrie pour détourner les gens, mais subtilement, bien sûr. Hein. Et donc, dans tout ceci, quelle est la particularité de l'homme ? La particularité de l'homme, c'est que Dieu dit de lui, « Je vais faire de lui, et il déclare aux anges, « Je vais établir sur terre mon vicaire, mon représentant, mon khalifa, le terme qui est coranique qui est employé. » Représentant de Dieu sur terre. Alors après, je reviendrai pour expliquer qu'est-ce qu'on entend par représentant de Dieu sur terre. Et comment peut-on être représentant de Dieu sur terre. Et qu'est-ce qu'il a fait de ce khalifa? Donc bien sûr, les anges s'interrogent, et puis il y a ce dialogue que vous connaissez entre les anges et Dieu. Et Dieu, que dit-il? Il dit, et il a enseigné à Adam tous les noms. C'est-à-dire, il a donné à Adam toute la science. Et là, tac, vous devez vous interpeller. Et il y a une différence entre la nature et la particularité de l'homme et celle de Iblis. Parce que Iblis, lui, il a gravi des échelons pour atteindre un certain niveau. Et là, Dieu crée une espèce qui se prénomme l'homme. Et cette créature, cette espèce, Dieu, sans que l'homme n'ait fait aucun effort, et lui donne la science. Alors bien sûr, là, l'épreuve de l'homme, elle va être ailleurs. Iblis, il a son épreuve, son piège, et il est tombé dedans. Et l'homme, il a aussi son piège et son épreuve. Donc il enseigne, et il donne toute la science à Adam. Adam est au paradis, dans le paradis terrestre, al-balad al-amin. Iblis se donne comme mission de détourner l'homme. Et quelle méthode va-t-il employer pour détourner l'homme? Eh bien, la méthode que lui, il connaît parfaitement, parce que c'est le piège dans lequel lui, il est tombé et qu'il a vécu. C'est son expérience. Donc, il faut qu'il fasse vivre à l'homme son expérience de la science pour que l'homme se retrouve dans le même piège que lui. Et alors, il l'a à sa merci et il fait ce qu'il veut avec lui. Ce piège, lequel est-il? C'est de lui faire découvrir ce que Dieu lui a, à Adam et Ève, lui a interdit de faire. Ne touche pas cet arbre. Iblis va les inviter à toucher cet arbre pour avoir l'éternité, etc. Il faut revenir au verset du Coran parce que je ne peux pas m'étendre sur le sujet plus que ça. Je veux juste jeter les bases et vous rappeler cette genèse qui est importante parce qu'elle explique et elle va éclairer sur la lumière et la science et elle éclaire le but et le pourquoi de ce que nous vivons aujourd'hui et du début et de la fin de la création. Alors, En touchant cet arbre, Adam et Ève, que se passe-t-il? Leur nudité leur apparaissent. Il y a quelque chose qui a changé. C'est ça qu'il faut entendre, parce que avant et après, ils étaient dans le même état. Mais ils ont vu quelque chose qu'ils ne voyaient pas avant, et cette chose qu'ils voient maintenant, c'est-à-dire après avoir touché l'arbre de la connaissance, va leur imposer un choix et une réflexion. Une réflexion qui est la réflexion de la science d'Iblis, c'est-à-dire une réflexion de science acquise. Iblis a très bien compris que s'il fait tomber l'homme dans la science acquise, alors il l'a à sa merci, parce que cette science acquise va le détourner et lui faire oublier que son essence et ce pourquoi Dieu l'a créé, c'était la science innée. C'est-à-dire, et il a enseigné à Adam la science de tous les noms, c'est-à-dire la science de toute chose. C'est-à-dire que l'homme, Dieu, la manière dont il l'a façonné et créé, il est là pour devenir celui qui alimente en science la création. Et c'est ça que vous devez entendre. Représentant de Dieu, ça veut dire que il n'y a pas lui et Dieu, mais il n'y a que Dieu. La science qui se diffuse à travers Adam, s'il est le Khalifa, c'est Dieu. Et c'est la lumière divine qui se diffuse à toutes les créatures. Et bien sûr, c'est ce qu'a refusé Iblis. L'intelligence de Adam est une intelligence supérieure parce qu'il a accès à cette science que Dieu lui donne. Et qu'il n'a pas besoin, je le répète, parce que c'est important, de faire un effort pour l'acquérir, parce qu'elle ne s'acquiert pas. Mais nous devons retrouver l'état dans lequel nous étions au paradis pour que cette science redevienne mon corps et qu'elle devienne naturellement un témoignage et une diffusion sur toute la création. Alors je reviens au verset de la lumière que Dieu nous interpelle avec ce verset dans son Saint-Livre. Les versets, les signes, mes frères et mes sœurs, ils sont là pour qu'ils soient vivants. Souvent nous employons ce terme. Et nous n'avons pas d'autre alternative que celle-ci. Comprendre le livre de Dieu, comprendre le Coran, c'est le comprendre à la lumière de la science que Dieu a donnée à Adam, c'est-à-dire à la lumière de la science acquise. Il n'y a qu'à cette condition-là que les versets du Coran, les signes de Dieu, deviennent, ils prennent une forme dont vous attestez. Et le verset, les signes, le livre devient clair. Allahu Nur, Dieu est lumière. Quelle est la particularité de la lumière? Là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Les ténèbres n'existent pas. Le choix n'existe pas. La raison intelligible, celle d'Iblis, elle n'existe pas. Elle ne peut pas subsister lorsqu'il y a la lumière. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est à cette lumière-là qu'il prend en parabole Dieu et qu'il dit qu'elle est comme une niche. dans laquelle il y a un verre et il y a une lampe. Et cette lampe est comme un astre lumineux. Ceci est la représentation de l'homme, mes frères et mes sœurs. Et ce qu'il a, allez, il ne l'a pas enfoui, parce que c'est l'homme lui-même qui l'a enfoui en acceptant et en ayant été détourné par la science acquise et le raisonnement d'Iblis. Mais c'est cette lumière-là que nous devons retrouver et qui ne permet pas les ténèbres. Vous savez, je prends un exemple. Pourquoi dit-on que le messager de Dieu, Fatimatu Zahra, et les 12 imams, on dit qu'ils sont infaillibles? Alors, tous les savants sont d'accord, pour, et c'est vrai, hein, pour l'expliquer, pour dire qu'en fait, ils ne commettent pas d'erreur, ils ne commettent pas de péché. Mais tout ceci reste abstrait. C'est pas clair, c'est clair et c'est pas clair. Quelle est la particularité de l'infaillibilité? L'infaillibilité, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de ténèbres dedans. C'est de la pure lumière. Ça veut dire que ce qu'ont été, ce qu'ont représenté les imams, le messager de Dieu et Fatimatu Zahra, alayhi salam, c'était de la pure lumière, sans ténèbres, sans l'ombre d'une ténèbre. Ils étaient les parfaits réceptacles de la lumière divine et de la science innée, à profusion. Et c'est cette lumière que Dieu veut que nous retrouvions, et qui est dans cette niche, et qui permet à l'homme de retrouver la science innée, cette science qui surpasse toutes les sciences. Cette science, mes frères et mes sœurs, d'où provient-elle? On l'a dit tout à l'heure, j'ai dit que je reviendrai dessus. Il dit que ça provient d'un arbre béni, qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Dites-moi, mes frères, si ça provient d'un arbre béni qui est ni d'Orient ni d'Occident, ben d'où provient-il? C'est-à-dire, il ne provient pas de cet espace. Il ne provient pas d'ici. Il provient d'ailleurs. Et ceci nous fait revenir à quoi, mes frères et mes sœurs? Eh bien, il nous fait revenir à la dimension atemporelle, à la dimension hors du temps et de l'espace, de notre être, de ce que nous sommes, et de cette science et de cette lumière que Dieu a réservée et a donnée à l'homme. Alors, mes frères et mes sœurs, Dieu nous invite à quoi? Il nous invite à cette science. Et il nous invite à retrouver notre nature, qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace, pour que nous puissions être totalement détachés, que nous puissions vivre sur cette terre jusqu'au temps que Dieu a fixé, mais que cette vie que nous vivons ici ne nous empêche en aucune manière d'être totalement attachés à la dimension atemporelle, hors du temps de notre être, de ce que nous sommes, de notre être lumineux, si vous voulez, de notre être céleste, si vous voulez, de notre réalité, si vous voulez. On peut lui donner différents termes, et dans d'autres religions, on lui donne encore d'autres termes, mais tout ceci ne revient qu'à une seule chose. C'est celle-ci. C'est que nous ne sommes pas de ce monde et que nous ne devons pas être bernés par la vie de ce monde parce que nous n'appartenons pas à ce monde, parce que nous sommes au-dessus de tout ceci. Mais on nous fait croire, Iblis et ses acolytes nous font croire que la réalité, elle est ici. Alors il nous fait réfléchir et il nous fait user du raisonnement. Et ceci n'épargne personne, mes frères et mes sœurs, parce qu'il ne faut pas penser que parce que je suis musulman, parce que je suis chrétien, parce que je suis un croyant de manière générale, que ça y est, j'ai retrouvé ma demeure. Non, parce que tant que j'utilise le raisonnement qu'Iblis veut que j'use dans ma démarche philosophique ou spirituelle, alors je suis berné, je suis trompé, je suis séduit. Et je peux être un musulman, un chrétien, un juif, et je suis séduit par Iblis. C'est ça qui est terrible, mes frères et mes sœurs. Que Dieu nous en préserve. Il faut, nous devons retrouver notre vraie nature. Et notre nature, c'est la lumière. Et nous ne sommes pas en dehors de cette lumière. Et Dieu, il prend aussi un exemple dans ses signes, dans le livre de Dieu, avec cette lumière. Et ce fameux verset où il dit qu'un jour équivaut à 1000 ans de votre compte. Et que ceci, lorsque nous faisons le calcul, il y a une méthode mathématique, eh bien nous retrouvons la vitesse de la lumière. Et que c'est à cette lumière que Dieu nous invite. C'est pour cette raison-là que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, nous devons l'appréhender de cette manière-là pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous n'avons pas d'autre alternative. Si nous voulons comprendre le monde dans lequel nous vivons avec le raisonnement logique, c'est-à-dire le raisonnement d'Iblis, tôt ou tard, il y aura une évolution. Iblis a évolué, hein. Il peut y avoir une évolution. Mais tôt ou tard, nous tombons dans le piège. Parce que le piège est trop grand, parce que la séduction est trop grande. Donc nous tombons dedans. Alors, nous devons retrouver la voie et la direction que Dieu a promis à Adam. Fa imma yatiyannakum minni huda. Et viendra de moi une direction. Quelle est cette direction? Cette direction, c'est la lumière. Rien d'autre. C'est pour ça que l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, quand on lui a demandé de définir, ou qu'il a défini lui-même la science, qu'a-t-il dit? Il n'a pas parlé de la science acquise, il a parlé de la science dans son essence, la science de l'homme. Et il a dit, c'est une lumière que Dieu projette, etc. Vous connaissez ce récit. C'est une lumière. Et lorsque l'on a cette lumière, Dieu s'est défini comme étant la lumière. Ça veut dire que si l'homme a cette lumière, l'homme disparaît. Et c'est Dieu qui agit. Ça n'est plus l'homme qui agit. Et c'est ça le khalifa. Tant qu'il y a lui et Dieu, il n'y a pas de khalifa. Tant qu'il y a nous et Dieu, il n'y a pas de lumière. Il n'y a la lumière que si c'est Dieu qui agit à travers le khalifa et l'homme. Et alors, là, nous rentrons dans la suite du verset. Nourun ala nour, yahdi. Dieu dit, lumière sur lumière. En fait, ce verset, mes frères et mes sœurs, qu'est-il en train de nous expliquer? Il est en train de nous expliquer à vous et moi quelle est la méthode pour retrouver la bonne direction. Alors nous, on croit que c'est les préceptes, fais ceci, fais cela, ne fais pas ça, etc. Tout ça, c'est pour se purifier, ça, c'est pour se détacher, pour que nos corps se préparent à la réception du flux spirituel. Et on est bien d'accord, c'est important aussi. Mais ça n'est pas le but. Le but ultime, lequel est-il? Eh bien, c'est la science qui dépasse toutes choses et qui est lumière. Lumière sur lumière. Il n'y a que cette méthode-là qui marche. Le traditionnalisme, ça ne marche pas. On tombe un jour ou un autre, on tombe dans un piège. Les plus grands sont tombés dedans. Mais si nous sommes dans cette démarche-là, de lumière sur lumière, là c'est autre chose. Et c'est la lumière qui fait comprendre à la lumière, qui fait comprendre à la lumière et ainsi de suite. Et Dieu est savant de toutes choses, parce qu'il connaît, il sait, c'est lui cette lumière. Et c'est à cette lumière-là que Dieu nous invite. Le début de la création et la fin de la création sont intimement liés et ils sont très 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 proches au regard de la dimension atemporelle dans laquelle nous avons été formés. C'est un temps très court. Il nous le dit, mais nous, nous avons une appréciation des choses qui est uniquement terrestre. Alors Dieu nous dit non, arrêtez d'avoir une appréciation terrestre et du temps d'ici, parce que si vous avez une appréciation, si vous avez cette appréciation-là, alors وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Par le temps, certes, l'homme court à sa perte. Si vous vivez dans le temps terrestre et que vous pensez que vous n'avez qu'une dimension terrestre et une dimension du temps d'ici, alors sachez qu'un jour vous serez poussière, vous ne serez rien, et vous n'aurez rien fait, et voilà, vous disparaîtrez. Vous n'aurez été qu'un figurant, et encore moins qu'un figurant. Mais Dieu nous appelle à beaucoup plus que ça, mes frères et mes sœurs. Alors, je le disais, la Genèse, le début, la fin sont intimement liés. Nous, nous lisons la Genèse, mais nous ne comprenons pas ce que cela veut dire. On a l'impression que Dieu est en train de nous expliquer comment l'homme a commencé. Et c'est vrai, mais nous, nous l'entendons physiquement. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Il est en train de nous dire quelle est la réalité de l'homme, pourquoi Dieu a créé l'homme. C'est pour ça qu'il nous rappelle l'histoire de la Genèse, pour que nous comprenions qui est l'homme. Et si nous comprenons qui est l'homme, alors nous comprenons le but ultime. Nous comprenons là où nous allons. Et toute cette histoire de séduction et toute cette histoire de défi d'Iblis. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, le seul moyen de s'en sortir, c'est la méthode des prophètes. Il n'y en a aucune autre qui marche. La preuve, si vous regardez les histoires, c'est pour ça que le Coran nous le rappelle, la Bible nous le rappelle, la Torah, etc., de ces peuples anciens qui ont vécu et qui ont... Alors bien sûr, je parle de ceux qui ont eu... Parce qu'il y a eu des civilisations qui étaient construites sur, par exemple, le modèle de Salomon, qui était construite sur quelque chose de saint, c'est-à-dire le tawhid et l'unité de Dieu, le khalifa. Mais maintes et maintes civilisations se sont succédées, ils ont atteint un certain niveau, mais que ce niveau a été atteint à la manière d'Iblis, c'est-à-dire avec une science acquise et des efforts. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces civilisations? Plouf! Elles ont été anéanties, elles se sont anéanties. En définitive, même si c'est Dieu qui est auteur de toutes choses, mais par leur manière d'agir, elles se sont anéanties. Elles sont amenées à disparaître. Aujourd'hui, ce que nous vivons, mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés à un niveau de civilisation qui est très haut. Et il y a énormément d'injustices et énormément de problèmes dans ce monde qui sont nés de cette méthode qui est utilisée aujourd'hui pour mener notre civilisation là où elle est. Alors que la méthode prophétique, c'est l'harmonie. La méthode prophétique, c'est tout le monde vit en harmonie. On atteint un summum, mais tous les hommes vivent en harmonie. Comme, reprenez l'exemple de Salomon, et regardez cette histoire de Salomon, le djinn il était à sa place, le shayatin ils étaient à leur place, les oiseaux, la fourmi, tout est à sa place. Ça, c'est le modèle. Et aujourd'hui, on nous propose un modèle de civilisation avec tout, c'est-à-dire le bien qu'on peut en penser, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes sur cette terre qui veulent agir pour le bien, qui veulent faire le bien et le meilleur. Mais le problème, c'est que quand on veut cela, mais qu'on constate des réalités différentes sur le terrain, alors on doit se remettre en question. Et là, on a des gens, des prophètes qui sont venus, des gens aujourd'hui qui témoignent, des croyants, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, etc., et qui disent, attendez, la méthode que vous utilisez pour cette civilisation-là, il y a trop d'injustice, il y a quelque chose qui ne va pas. Il nous faut revenir à des enseignements plus sains. Et les prophètes nous en ont parlé. Êtes-vous prêts à employer cette méthode afin que tous ensemble nous puissions nous retrouver cette voie et cette direction et qu'ensemble, eh bien, toute cette humanité retrouve son équilibre? Mais le problème, c'est que on a une partie des gens qui sont arrogants. Et l'arrogance ne permet pas de demander pardon. L'arrogance ne permet pas de se remettre en question. L'arrogance nous fait refuser l'alternative que d'autres peuvent proposer et qui, à leurs yeux, paraissent des méthodes archaïques. Et voilà tout le problème. Alors, nous disons à tous les hommes de la terre, ô hommes, reprenez votre destin en main, parce que vous en avez la capacité, parce que Dieu vous l'a donné. Retrouvez cette réalité que Dieu a mis en vous. Faites ce qu'il faut pour la retrouver. Et lorsque vous l'aurez retrouvée, soyez-en des témoins. Et alors, et seulement alors, vous pourrez devenir, aux yeux de cette création, eh bien, une méthode d'enseignement et de science et de diffusion de la lumière pour que nous retrouvions chacun et tous ceux qui méritent de le retrouver, et Dieu sait que les hommes méritent cela, retrouver cette direction et cette réalité pour laquelle nous avons été créés. Cette solution, mes frères, mes sœurs, elle est lumineuse. Cette solution, elle fait partie de la science innée. Dieu nous le propose en parabole, dans plein d'histoires. Et je ne vous rappellerai pas, c'est une figure de style que l'on emploie dans la langue française, on appelle ça la prétérition. Prétendre ne pas parler de quelque chose dont on va parler, quand même. Alors je vous en parle quand même. De cette histoire de Salomon, et de celui qui a une méthode pour ramener le trône que Salomon demande, et de l'autre qui a une autre méthode pour ramener le trône de Salomon. Et que tout ceci nous interpelle, mes frères et mes sœurs. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous réellement? Je le dis à mes frères et à mes sœurs chrétiens, puisque j'avais commencé avec ceci au début, avec cette naissance, cette fameuse naissance de Jésus, fils de Marie, que la paix douce de Dieu soit sur eux deux. Jésus était le témoin de cela, le témoin de cette réalité-là. Jésus était en dehors de ce temps. Il a vécu parmi nous, mais il était en dehors de ce temps et il était, et il fut, et il est, et tous les prophètes le sont, le témoin, les témoins de la réalité qui est en dehors de ce monde. Et ils viennent nous la rappeler. C'est ce que Jésus, alayhi salam, nous rappelle, mes frères et mes sœurs. En avons-nous conscience? J'espère pour mon âme en tout cas, et celle de mes frères et de mes sœurs. Nous devons avoir la plus grande foi, parce que c'est notre foi qui transforme. Et c'est notre foi qui est l'alternative au monde de demain, pour que tous nous puissions vivre en harmonie, en paix. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.